de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les coups.
Amis de Radio Occitanie et de la poésie, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, je vais vous parler, d'abord je vais revenir sur le recueil de Régine A. Mintu, Mon jardin botanique, qui constitue le 401e numéro d'Encre vive. Alors Régine A. Mintu, elle est née en 1956, elle est née à Paris, mais elle est d'origine vietnamienne et française. Et surtout, elle a séjourné à Berlin-Ouest, en RFA, pendant longtemps, où elle a entrepris un travail énorme de recherche et de traduction sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été ensuite dans le Limousin, elle a habité Lyon, et elle est actuellement bibliothécaire donc à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Et elle habite dans l'Aude, Régine. Alors elle publie, ce n'est pas son premier recueil chez Michel Cozem à Encre Vive, elle a publié déjà, elle a publié Mots sans lune aux éditions Caractère de Bruno Durocher, c'était à Paris en 1991, elle a publié Terre ardente, ville d'Orléans, Orléans, en 1992, avec une préface d'Alain Nau, Fuite pour moi est en continu, La scribande Pironelles en Quing, c'est en Belgique, Carnet de pleine lune, ça c'était des charges qui avait fait un polder, donc Jacques Morin, qu'il avait publié en 1994, Littorine Centre Froissart, ceci c'était à Valenciennes en 1995, Le Cendre, Trans. Regretté Michel François Lavoir, c'était au Palais en 1997, Reverne d'encre, donc Encre vive chez Cozem en 2009, avec une présentation de Xavier Thomain. La morsure, c'est toujours Encre vive, avec une présentation de Christian Degoutte, que l'on salue. Graines, livre d'artiste, texte Régine A. Mintu, dessin, peinture au collage de Xavier Thomain, qui est un plasticien, en 2012. que l'on peut voir, il y a d'ailleurs un site là-dessus, hein, il suffit de taper son nom et de taper graines. Et puis l'empreinte, encre vive chez Cosem, donc toujours en Colomiers, donc en 2014, avec une gravure de Philippe Minard, l'empreinte. Et elle paraît dans des anthologies et dans le Polder deuxième génération également, cette coéditation des éditions Décharge et Gros Texte. Voilà. Donc elle avait paru également dans la revue de Michel Cousem dans les années 80-90, la revue Texture. Régine Mentu, qui fait paraître dans Mon Jardin Botanique. Intériorité sans abri, sans cesse renouvelée, fugace, un regard, une odeur, dans un jour bleu qui pointe, immobile, je m'imprègne des paysages qui font éclater mes veines, images multiples, bordées d'étreintes, églises, murets, perrons et jardins qui attendent, les isolateurs émaillés, posés comme des flotteurs, mémoire en filigrane. Je vais vous lire quelques extraits donc de Mon Jardin Botanique, étant précisé que la musique de fond que vous écoutez est d'un compositeur catalan dont nous aurons l'occasion de parler. Il s'agit de Àlex Gos. Àlex Gos, retenez bien ce nom, compositeur de talent catalan. C'est l'avenir de la composition musicale. Regina Mintu. Quai de gare, immobile, sous un ciel excessif, barrière rouge et blanche, murée ajourée de lichens, coquelicots, traverse démontée et livrée à la rouille, cartographie intime, métaphore des trains, soubresaut métallique qui scande ma pensée, devant moi, un rappeur, scande muettement mes mots, au début de moi-même. Où suis-je descendu ? Et puis, vous disais-je, Régine Mintu a longtemps habité la RFA, Berlin. Berlin, accroché aux cheminées de briques, quand un train entre en gare, dans des lumières pâles, les balcons accrochent des géraniums au ciel, la rue tranche mes pas, friche des années 80, couloir est, ouest, guichet fermé, dans les façades encore des impacts de balles, des coqs appellent dans des cours, en 50 ans recouvertes d'herbes grises, les tuiles se défont et battent au cœur des vents, dans des instants qui durent, vol d'une mouche gorgée d'automne. La nuit mêle les chemins brisés et fonde de nouveaux miroirs. Aujourd'hui, poser un sourire sur les mêmes pierres. La rue sent le printemps de Berlin et d'ailleurs. Gavrir les mêmes marches. Odeur de nostalgie, c'est celle de l'humus. Du goudron chaud après la pluie d'orage, des trottoirs nettoyés à grande eau le matin et du feu de cheminée, euphorie des mouvements évanouis, des villes m'appartiennent, de Berlin à Paris, de Berlin vers ailleurs, à pied. Je les questionne dans leur maillage, les superpose à mes interrogations. De jour en jour, une attente profonde trace mon horizon. Sur ma terre, des corneilles guettent le moment quand, enfin, coupé de mes racines, je reste face à moi-même dans l'imprécision de mes contours. Horizon blanchi, entre le ciel d'hier et le ciel d'aujourd'hui, des ombelles repousse chaque année, libérant peu à peu mes paupières, retrouver ce que le départ de l'enfance m'a fait perdre de moi. exaltation de l'instant éphémère, posé dans sa fragilité, un train démarre, escarbille noire du charbon. Le canal s'étire entre les vignes bleues, platanes au tronc d'argent venant du fond des eaux. Jardin posé dans l'éphémère, lilas et chèvrefeuilles, forêts à l'effusion, défilés tendus au-dessus des vergers ressemblent à de l'eau qui frissonne. Une lumière brumeuse se lève et vrille le ressac. Des trains attendent à la croisée des voies. Chaque lien se dévoile, faisant écho en moi. Seul, croiser mes espaces multiples. Alors là, nous voyons bien Régine qui habite l'Aude, qui prend le train tous les jours pour arriver à Toulouse, à la station de la gare Montaudran, pour regagner la faculté Paul Sabatier, la bibliothèque de cette faculté où elle travaille. Et là, il y a ce paysage du canal, des vignes de l'Aude, et qui l'amène vers ses espaces multiples, c'est-à-dire les villes qu'elle a traversées, Berlin, Toulouse. Régine Amintu. Les fenêtres ouvertes, trois petits cailloux posés sur mon regard, quotidien invisible qui porte nos mémoires, bruit d'eau, frottement de la pierre, à cloche-pied, les trottoirs de granit me proposent jamais de retour. Avide d'échange dans le silence, j'ai faim de mon univers poétique. Et la nostalgie. Je pleure parfois de la fragilité des choses, de l'étreinte qui est en tout. Les odeurs renaissent, jardin dans le premier soleil, chemin d'école enveloppé de lilas, la chair blette des fruits, fulgurance qui me poignarde. Elles contiennent toute la beauté et tout le désespoir. La lumière et l'ombre pointue des lisières. Mes doigts scrutent les angles des maisons, inventent des chemins. Quand seule la cartographie de l'enfance est réelle, qui semble imaginaire. Posé dans mon silence, je cueille un à un les graviers gris de la nuit qui affabulent des chemins. Des traces indivisibles me mènent au-delà d'un exil. Ma voix se posera un jour. Jour après jour, des milliers de photos transparentes se superposent, me révèlent l'instant poétique. Les mots embrassent le silence, remontent le long de mon épine dorsale. Dans des lumières toujours plus crues, je traverse ces lieux qui brûlent sous ma peau. Cailloux blanc, littorine, morceau de verre poli, posé à l'infini pour effleurer un sens. Je tiens ces territoires dans le creux de ma main, faisant de chacun d'eux ma terre que j'ordonne. Ma peau s'ouvre enfin au vertige d'une mémoire voilée. À partir des mots coule un lieu unique qui me compose. Thank you. Régine, emmènes-tu mon jardin botanique? Au détour de moi-même, né dans des sources qui affleurent dans mes silences, je suis à l'infini dans l'intuition des choses, dans les petits bonheurs qui distillent mon impatience. L'enfance m'accompagne silencieuse sur des terres immergées. Les images rayonnent et m'attachent à la vie. Ce que je suis depuis toujours est ma force. Apprendre à la peupler de mon intimité. La pluie me relie à la terre et me relie au ciel. Rire dans l'immensité du ciel et relâcher le corps, pieds mouillés, le bonheur de traverser les flaques. Dans les champs qui s'égouttent, le blé sent déjà le pain blanc. Le foin sèche et fait craquer le ciel. Embrasser ces effluves qui fusionnent et m'étreignent, étreindre pour être plus encore en ces lieux qui affleurent au creux de ma mémoire. Je pose mes paupières sur les veines striées du bois. Je pose mon temps dans un regard scié. L'herbe humide au bord des chemins clairs suggère la saison prochaine. Mes mots posent peu à peu le détachement quand ce tout morcelé aura enfin été. Silence bleuté dans un ciel rouge argile. Éclat de verre, ciel, jardin, tonnelle, larmes, lacets, entrelacements, pierre jaune, pierre blanche, oubliée. Le nom des rues qui faisaient le quartier. Il me reste des champs immenses entre Landwehr Canal et Canal du Midi. Le ciel jamais ne s'endeuillera de mes pertes. L'horizon se fait ligne, ma peau frissonne de l'air frais, euphorie de moi-même dans les regards croisés. Peupliers, châtaigniers, ginkgo, tilleul, platane, mélèze, hêtre et érable champêtre peuplent mon intimité, riche des lieux que je traverse. Mes friches se remplissent ainsi depuis toujours, devenant ma terre intériorisée, mon pays botanique. Un jour, j'habiterai mes rêves. Dans l'ivresse des petits bonheurs, après avoir été en marge de moi-même, je prendrai une main dans l'attente et l'ivresse des départs, quand les ombelles fleurissent à nouveau les traverses. Dans la nuit apaisée, mon ventre aspire les étoiles filantes. Régine Amintu. Voilà, très beau texte que je vous invite à vous procurer. Un écrivain à encre vive, 2 allée des Allobroges, 31-770 à Colomiers. Le fascicule vous coûtera 6,10 € et vous pouvez vous abonner à Encre Vive pour 12 volumes pour 34 €. Voilà, vous trouverez ces renseignements sur notre site les-poètes.fr. Alors vous avez vu à quel point Régine Amintu, c'est un voyage en définitive, ce jardin botanique, hein. Voyage un peu de tous les lieux qu'elle a traversés et qui en définitive finissent par être une espèce de lieu confondu qui est le lieu de son intimité. Très 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 beau recueil que je vous invite à vous procurer. Mon jardin botanique de Régine Amintu. Je voudrais vous parler des éditions Ad Solem. Alors, ce sont d'excellentes éditions qui publie une poésie des poètes d'une grande spiritualité. Donc, des éditions magnifiques, des éditions Ad Solem, qui nous livrent là deux livres. Le premier est de Thierry Pierre Clément. Ça s'appelle Approche de l'aube, avec une préface de Jean-Pierre Lemaire. Je crois que je vais quand même lire un extrait de cette préface. Jean-Pierre Lemaire, que l'on connaît, qui est ce grand poète français, qui lui aussi s'inscrit parfaitement dans cette poésie, comment dirais-je, quasiment mystique, une poésie de grande spiritualité. Voilà ce qu'il dit, Jean-Pierre Lemaire, avec sa générosité bien connue, pour Thierry Pierre Clément, son livre Approche de l'aube. Voilà ce qu'il dit. Le recueil de Pierre Clément porte bien son titre. Si chacun des poèmes qu'on va lire est merveilleusement équilibré dans ses sonorités et ses rythmes, comme pesé dans la fine balance ou la peseuse de perles, de Vermeer, évalue ses trésors. Il est en même temps, tels les personnages et les objets du maître de Delft, orientés vers la lumière, déjà visible ou encore secrète. Approche de l'aube peut d'ailleurs s'entendre en deux sens, selon que c'est l'aube qui approche ou l'homme qui s'approche d'elle. La lumière est ainsi approchée par la marche en montagne ou sur les rampes du mont Saint-Michel. Mais, le plus souvent, elle est attendue par le veilleur immobile ou fortuitement rencontrée. Elle se manifeste dans l'incendie multicolore qu'allument les fleurs, l'épanchement parfumé d'une glycine ou encore dans l'invisible oiseau à la poitrine qui brûle et que son chant dénonce. Ces rencontres, ou presque rien, ne bouge, entraîne cependant des changements imperceptibles et fondamentaux que seul le poème est à même d'enregistrer. Ainsi, cette méditation devant une rose, il cite l'auteur, « Laisse-la entrer en toi, laisse-la devenir toi, et toi deviens la rose. » Ou ce face-à-face entre une femme et un oiseau, quand il déploie ses ailes, qu'elle se remet en marche, tout ton être s'élance du même envol, comme si le ciel venait vers toi. L'émerveillement nous place au seuil du mystère et de l'éternité. Le cercle noir de la mare nous fait pressentir une entrée menant à un autre côté du monde. La légende murmurée par le ruisseau discret et sans fin, porteuse du secret, dans l'étreinte amoureuse, la peau de la femme devient la frontière du royaume promis et déjà pour un moment possédée, puisque l'éternité est, il cite, entre nos bras, avec nous, enlacée. Pourtant le temps passe, nous apportant la mélancolie des occasions perdues, des printemps qui s'achèvent sur un seul goût d'automne, et nous laisse même l'impression qu'ils n'ont jamais été, faute de nous avoir renouvelés. L'attitude de l'homme est bien, comme le disait Rilke, celle d'un être perpétuellement retourné vers tout ce à quoi l'on n'arrête pas de dire adieu. S'il y avait cependant un bénéfice possible, une leçon à tirer de cette partie centrale du recueil, ce serait celle du dépouillement qui dénule nude l'attente elle-même. Voilà, nous allons arrêter là sur ce dépouillement, cette idée du dépouillement et de la lumière. La lumière, quand elle arrive, se détache sur le fond de ce pluriel. Très belle préface donc de Jean Lemaire à propos de Approche de l'aube de Thierry Pierre Clément. Alors je dirais que en définitive, cette lumière dans Mon jardin botanique de Régine Mintu, elle apparaît également, hein, dans ce paysage, dans ce jardin qu'elle essaie de trouver, dans ce jardin intime qu'elle essaie de reconstituer. En définitive, eh bien, ce jardin, il faut qu'il soit éclairé de cette lumière. Revenons à Thierry Pierre Clément, extrait donc de ce livre, L'éternité. Derrière les arbres, un incendie demeure et de l'or flambe au fond de la vallée. La pluie ne l'éteint pas, des oiseaux blancs dans le ciel passent sans bruit. Avec les fleurs, la joie. Chaque fleur est discrète, mais toutes ensemble, elles allument un incendie multicolore qui soulève la prairie en marée de lumière. Le don. La glycine épanche ses fleurs très pâles. Elle déborde en gros bouquets d'offrandes par-dessus la balustrade et la corniche du toit. On dirait une cascade de neige parfumée en flot d'inépuisable abondance. Et ton cœur déborde aussi, stupéfait de recevoir ce matin tant de merveilles imméritées. Le chant. La vigne vierge ouvre ses feuilles et recouvre les pierres peu à peu. La paroi ondoie et chante. Les insectes y bourdonnent à l'automne. Ce mur sera de feu. Il nous ressemblera. Ce chant était effectivement dédié à Fabienne. La méditation, qui est dédiée au poète Gaspard Hanse. Les paroles sont inutiles, reste simplement là, présent devant le monde, présent devant la rose qui fleurit sans pourquoi. Laisse-la entrer en toi, laisse-la devenir toi et toi. Deviens la rose. L'espérance. Unique rose restée seule contre la mort, lumière vive au jardin. Voilà, vous avez entendu le ton de ce poète. C'est une poésie donc très resserrée. Cette spiritualité qui se fait en quelques vers, en quelques lignes, en quelques mots. Mais quelle concentration de sens, quelle densité de la phrase, quelle densité du langage. Compagne au nuage, l'ignorance. Papillon fou entre lampe et fenêtre, affamé d'espace. Tu ne vois pas la porte ouverte sur le jardin. Voilà. Six vers, et tout est là, l'ignorance. Et nous sommes souvent comme ce papillon fou, affamé d'espace, qui navigue entre lampes et fenêtres et ne voit pas la porte ouverte sur le jardin. L'ivresse. Corneille tournoyant, porté par les courants de l'air, soulevé par les champs de l'espace, goulu de l'ivresse inouïe, sans cesse tournoyant, sans cesse dansant, derviche céleste dans la cour des corps, déjà léger, éternelle gravitation des astres, des éphémères. Voilà. Alors l'ivresse dont on parle, on parle des derviches, hein, les derviches tourneurs, c'est-à-dire cette ivresse spirituelle, être rempli de cette espérance justement qui donne cette ivresse. L'insouciance, une longue plage d'or dessinée par la mer s'enroule à vos ailes et glisse sous la faucille du temps comme une herbe rebelle au milieu de l'orage. Et puis la musique que nous entendons, la musique d'Alex Goss, la musique, chant de la grive, même le merle écoute. La beauté croise ta route. Elle a les yeux d'un chevreuil. Elle te regarde un instant avant de bondir sans hâte dans le sous-bois. Rendu à ta solitude, tu ne peux que dire merci. Quelque chose en toi s'est haussé. Et l'invisible, caché dans la frondaison invisible, tu demeures, petit oiseau, à la poitrine qui brûle. Mais ton chant te dénonce et me met à genoux. Il y a une partie intitulée « Émerveillement » avec un exergue, cette citation de Paul Claudel. « Chut, si nous faisons du bruit, le temps va recommencer. » Ombres et lumières, veille. La rue étroite s'élève sur la pente, se glisse comme une écharpe ou un bras, sur ce cou penché, bordé de néons, de restaurants, d'échoppes, de souvenirs, d'éclairs, de milliers de flashs et de l'énorme rumeur du flot humain, cependant qu'au dehors, les flots marins s'écrasent contre le rocher. Et nous grimpons, de pierre en pierre, de marche en marche, appuyés contre le ciel, arrachés à la mer, qui nous entoure de toutes parts, soulevés par le vent, qui nous porte et nous allège, nous soustrait à la foule. À l'horizon, le soleil n'en finit pas de sombrer dans son manteau de sang. Les voix s'entremêlent, lignes des hommes, lignes des femmes, arabesques réunies en un seul souffle. Sous la voûte de pierre, le chant noué comme une gerbe d'or, offrande impalpable sous le grand doigt minéral pointé vers le ciel et la nuit. Voix jointes comme les mains, louanges montant des entrailles de la terre dans les silences où navigue le chant. Nul bruit ne parvient du dehors à percer la muraille séculaire. Nous flottons sur la mer, entre la terre et le ciel, à l'abri d'un navire de pierre, au creux de l'arche de notre propre cœur. Elle sautille sur les marches patinées, elle bondit comme une gazelle, elle vole, elle ne touche pas le sol, tourbillonnant parmi l'étoffe de ses voiles, si légère, avec son petit poids d'os et de chair, si vive et joyeuse en son habit de lumière, et les clés de fer sonnaillent à sa main blanche. Elle nous ouvre la grille, puis la très lourde porte qui nous rend au monde. Dehors, nous ne le savions pas. La tempête s'est levée et fait rage. La nuit recouvre le monde, rugissant de pluie et de vent. La rue est trempée, obscure et désertée. Nous titubons sous les bourrasques glacées. Nous courons, penchés en avant, vers le sol ensablé qui nous rassure. Mais nous nous retournons, là-haut, dans la lumière, sous son écrin de granit. Veille impassible. Ce qui seul demeure sourit silencieusement. Ce qui seul sauve. Alors ce texte, qui malheureusement pourrait être presque un texte d'actualité quand on sait ces rages climatiques qui sont produits dans l'Aude et puis qui se produisent actuellement dans le Var, quand on pense à toutes ces tempêtes qui suivent la planète, notre Terre, eh bien, ce texte porte une terrible quand même aussi espérance, c'est-à-dire que dans ce chamboulement qui nous malmène, eh bien, si nous nous retournons, nous pouvons toujours nous retourner là-haut dans la lumière. Et ce texte a été écrit au Mont-Saint-Michel, au mois de février 2016, par Thierry-Pierre Clément. Imaginez bien ce que pouvait être ce Mont-Saint-Michel un jour de tempête, de février. Alors, un poème qui est dédié à son préfacier, Jean-Pierre Lemaire, Révélation. Les hautes pierres blondes font de la brume du matin, comme la proue d'un navire l'écume, et plus elles s'avancent, plus elles se couvrent d'or. Elles nous montrent la voie, le soleil sorti des bois de la nuit. La lumière accueille la révélation des pierres, elle accepte d'être désignée par elle, de naître à travers elle. Thierry-Pierre Clément, Approche de l'aube, Soumission. Les poèmes me requièrent. Je ne puis que m'y livrer comme un captif au bûcher. Et en effet, il brûle. Il transforme le bois lourd en cendre légère et sculpte le visage de la nuit. Au matin, il ne reste rien qu'un fumet sans contour qui s'entête ou s'évapore. Attention, c'est dédié à un autre poète qui est Philippe Maty. Philippe Maty, je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Attention, tu as marché à la rencontre d'un poème. Tes pas ne le savaient pas, ils t'attendaient au bord de la route. Tu devais juste lui prêter l'oreille et le regard. Discrétion. Petit ruisseau discret entre les murs et les herbes, étroits sentiers liquides au lit de mousse et de sable, chanson d'eau caressée par le soleil. Qui te remarque? Qui t'écoute? Et s'agenouille aux lèvres de ton murmure, de ta légende sans fin, porteuse du secret. Voilà, Approche de l'aube, je vous invite à vous procurer aux éditions Ad Solem, Approche de l'aube, donc ce recueil de Thierry-Pierre Clément, qui trace un itinéraire, celui d'un chemin de vie, donc animé d'un émerveillement constant devant le monde, et qui, s'il peut connaître des moments de doute et de chaos, reste ancré dans une espérance profonde. Chaque poème, nous dit Jean-Pierre Lemaire, est ici orienté vers la lumière, déjà visible ou encore secrète. L'aube s'approche, ou c'est l'homme qui s'approche d'elle. Voilà, je voulais relire ce passage de la préface qui constitue une partie de la quatrième de couverture de ce beau recueil de Thierry-Pierre Clément, aux éditions Ad Solem, collection Poésie, volume qui vous coûtera 19 euros. Et toujours aux éditions Ad Solem, Janine Modlinger, je ne sais pas ce qu'il faut dire, Traversée. Alors, Janine Modlinger a longtemps enseigné à Paris et son dernier recueil, Beauté du presque rien, a été publié aux mêmes éditions, donc Ad Solem. En chemin vers Florence, un regard se perd dans le paysage, ou plutôt il cherche. Il se cherche comme on cherche un vis-à-vis, un visage ami, un visage aimé, le visage d'une mère perdue trop tôt et qui transforme la vie en une longue attente. Attente qui alors donne d'autant plus de valeur à chaque rencontre, à chaque présence. Attente qui creuse l'attention néanmoins, parce que peut-être ce visage, ce paysage, ce tableau laisse apparaître quelque chose d'inattendu, l'attendu lui-même. Dans ce nouveau recueil, les poèmes de Janine Mondlinger recomposent ce visage disparu, traversé, montre qu'au-delà du désastre, quelque chose d'indestructible demeure. J'ai promis de ne pas oublier le désastre, mais d'en faire le seuil d'où je m'élance. On ne peut pas être frappé avec ce qui relie en définitive les trois poètes de cette soirée, que ce soit Régine Amintu, que ce soit Thierry Pierre Clément, que ce soit maintenant Janine Mondlinger. C'est cette recherche et cette conviction d'une espérance et d'une lumière. J'écris ce recueil, dit-elle, pour cette tâche qui m'importe, rendre témoignage de ces vies effacées, inconnues, qui pourraient tomber dans l'obscur et l'anonymat, mes grands-parents, qui ont fui au début du XXe siècle la fureur antisémite de la Russie, pour se réfugier à Genève. Ma mère disparut jeune alors qu'enfin sa vie s'ensoleillait. Toute vie sombre dans le néant, sans trace, sans reste. L'écriture les arrache à l'obscur qu'elle transfigure en lumière. L'absurde devient sens et beauté. Écrire, c'est leur donner un lieu, une voix. C'est témoigner, crier à la place de ceux qui n'ont pu le faire. Retisser leur vie à travers les mots, les célébrer dans l'écriture. Dire en pointillé quelques bribes de ma vie, moi qui suis leur enfant. Le dire doucement, avec humilité. Voilà, les choses sont dites, et il y a en exergue cette citation de Rainer Maria Rilke. Nous sommes les abeilles de l'invisible, nous butinons éperdument le miel du visible. Rainer Maria Rilke. Profusion. Janine Mondlinger. Le jour dessille mes paupières. Vers l'arbre ébloui, je vais à même la terre heureuse. Tout est là, intact, comme un champ. J'ai promis de ne pas oublier le désastre, mais d'en faire le seuil d'où je m'élance. Elle écoute le bruit du train. Ce bruit de l'origine, ce bercement du lointain, comme lorsqu'elle voyageait petite avec sa mère pour aller à Genève. Longues heures dans la nuit, regarder la mer, son visage d'ange dans l'ombre du wagon. C'est toujours le train de nuit, et ce battement sourd sur les rails. Elle est adulte, elle va à Florence. Bruit du train dans la nuit, merveille du départ, comme si la ville aimait l'attendait. Est-ce cette fièvre qui l'empêche de dormir, ou bien y aurait-il des raisons mystérieuses qui l'incitent à rester éveillée? Au bout d'une heure, dans ce train de nuit pour Florence, elle songe à sa vie. Ils sont partis. Le cœur lourd et brûlant, quittant leurs bien-aimés, la terre russe et ses paysages incandescents, laissant le grand fleuve qui coule loin vers le sud, le Dniepr, qui va vers l'illimité, on ne pourra rien emporter. Sinon, la langue comporte en soi le russe et sa beauté infinie qui serre le cœur. Il fallait rêver, imaginer un monde meilleur, s'extraire de cette ignominie, pogrom, tuerie, antisémitisme, exclusion pour eux, les juifs, dans la Russie de ce début de siècle. Lui, de Mohylev, la grande ville, elle, de Vitebsk. Il fallait partir, sans rien emporter, sinon sa jeunesse, comme un navire qui gonflait les voiles avant de quitter le rivage. Ce fut leur voyage, ce fut leur grande douleur, leur espérance. Un lieu les attendait dans la Suisse prospère. Il avait pour nom Genève. On leur avait dit que la ville était radieuse, que là-bas les Juifs pouvaient vivre. Ils allaient vers l'avenir, dans la douleur et la joie de leur jeunesse. Le train parcourait les pays et les frontières. Depuis l'Ukraine lointaine, il fallait traverser la Hongrie, puis l'Autriche, et toutes ces gares, ces haltes, ces attentes, cette fatigue interminable. De la Russie, il n'a pu emporter qu'un seul objet, un grand samovar argenté. Toute leur vie, ils irradiaient dans l'appartement de Genève. Enfant à Genève, sur le mur de la chambre des grands-parents, elle contemple les photographies, elle les dévore du regard longuement. Qui sont ces inconnus, dans leurs beaux vêtements d'autrefois? Elle ressent leur présence, leur absence. Elle s'imprègne du mystère. Dans la chambre des grands-parents, il ne reste que cela du pays quitté. Le portrait de tous ceux restés là-bas, dans la lointaine Russie, fermée à jamais, frères et sœurs et d'autres encore. Elle ne se lasse pas de contempler la beauté nue de la femme, aux yeux noirs, enveloppée de fourrure, la sœur de son grand-père, fascinante, ensorcelante. Le premier enfant né à Genève fut sa mère. On la nomma Bertha. Ses premiers mots parlés furent en russe. Elle grandit là avec sa sœur et son frère, et très vite, sur les photographies, on pouvait remarquer la luminosité énigmatique de son visage, ses grands yeux noirs tournés vers l'ici et le lointain. Elle était belle, rayonnante. Jeune fille, elle souhaita devenir dentiste et là encore, on la remarque, lumineuse, sur des photographies parmi les étudiants devant l'université. Elle était belle par l'âme et par le corps. Et personne n'aurait pu dire d'où venait ce feu qui irradie. Énigmatique présence du féminin, cette impression d'un au-delà, accueil du monde dans sa prodigalité. Qui pourrait dire ce qu'est la femme lorsqu'elle s'accomplit? Elle aimait tout. La ville majestueuse, son lac et ses montagnes au lointain, la nature et les arbres, les êtres humains, les mystères de la physiologie et l'art de soigner les dents, la beauté magnétique des robes qui lui allaient si bien. Pour ses parents, pour ceux qui avaient tout quitté, leur enfant, leur fille Bertha, était le signe de la vie retrouvée. Ce qui venait dans son cabinet dentaire et de les raccompagner sur le seuil jusqu'à l'ascenseur. Soigner les dents ne suffit pas. Il faut écouter l'âme, la douleur de l'être humain dans ses abîmes insoupçonnés. Et maintenant, voici le récit de son père. Durant la guerre, j'étais avec ma belle-sœur dans un tramway à Genève. Soudain, à l'arrêt, je vis une femme monter. Elle irradiait de tout son être. Je n'ai jamais vu une telle beauté. Je restais immobile, regardant sans voir, sans comprendre comment la beauté éternelle peut s'incarner dans une créature vivante. Elle vint dire bonjour à ta tante, dont elle soignait les dents. Et moi, en lui serrant la main, je respirais le parfum de celle qui allait devenir ta mère. Chaque rencontre est unique, elle ressemble à un poème. Elle est l'éclair qui traverse le vivant pour l'illuminer. Être venu à vie, traverser le vivant dans son énigmatique présence, accueillir, qu'on le sache ou non, le grand mystère, cela relève de l'inconcevable. Le poème serait-il le seul à en rendre compte ? C'est à Paris, dans la grande synagogue, qu'ils s'épousèrent. Ils n'étaient plus jeunes, mais ils avaient la jeunesse de leur amour. Le jour de sa naissance, ce fut l'inespéré, la gloire de leur amour. Son frère jumeau mourut au bout de quelques jours. Elle ignore son nom. Elle n'a pas de stèle. Comme s'il n'avait jamais existé. Elle ne savait pas encore qu'il lui faudrait, elle, renaître tant de fois. Dans son âme a surgi le souvenir de ce grand piano où sa mère jouait tout en chantant. Chansons de Charles Trenet et d'autres. Partitions classiques. Toute la maison vibrait dans la merveille. Parfois, c'est l'enfant qui chantait, tandis que sa mère jouait la mélodie sur l'instrument. Tout est bonheur. Faire le marché avec sa mère. Déambuler parmi les fruits et les légumes. Acheter des vêtements. Se laisser choyer. Avec elle, elle apprit lentement à lire et à écrire, bien avant le temps de l'école. Elle avait 3 ans et demi lorsque les premiers symptômes de la maladie s'annoncèrent. Sa mère malade, 3 années durant, fut opérée de nombreuses reprises. Mais toujours si belle et rayonnante, son sourire de douceur l'illuminait. Déjà, l'effroi et l'angoisse avaient porté atteinte à sa plénitude d'enfant. La vie de sa mère lui apparaissait maintenant dans son indicible fragilité. Sur une photographie qu'elle avait décidé de faire au studio Artcourt avec ses 2 enfants, elle apparaît déjà comme absente. Lorsqu'elle eut 6 ans et demi, sa mère mourut. Seule elle resta avec son père
et son petit frère. Rivet a un tabouret dans le couloir. Rivet, plus exactement, à un lieu qui est déjà un désert. Elle attend. La mère est partie tout à l'heure avec le père pour une destination qu'elle ignore et qu'elle sait. Quelque chose en elle hume en sourdine ce qui se passe, ce qui va peut-être se passer. Ces cliniques d'où l'on ne revient pas, cette chose impossible, ces lieux d'où l'on ne revient pas. Immobile et seule dans cette maison, qui n'est déjà plus une maison où l'on habite, mais un abîme, un vide où l'on tombe, où tout glisse, où tout se fond, pour déjà vous séparer de tous les vivants. Elle attend sa mère. La mère partit tout à l'heure avec son sourire et sa douceur, emportant avec elle le sourire et la douceur. Elle attend l'attente, elle attend le temps qui ne passe plus. Elle attend que sa vie suspendue dans l'abîme ne sombre pas pour toujours dans cette attente. Un sursis, un miracle. Peut-être qu'elle fait des mauvais rêves simplement. Mais alors, pourquoi cette douleur dans son corps et sa tête inerte? Et pourquoi cette impossibilité de bouger, comme s'il fallait ainsi veiller et rester là, sans bouger de toutes ses forces réunies, capter toutes les forces immenses de l'espoir et de l'univers pour la faire revenir, elle? Voilà. Texte donc, vous l'avez entendu, texte d'une intensité énorme, d'un pathétisme, mais d'une langue extraordinaire, Jeanine Mondlinger. Traversée, poésie, aux éditions Hatzolem, à lire. Le livre vous coûtera 17 euros. Voilà, ainsi s'achève sur cette description pathétique, mais pleine d'espérance, encore une fois. La même espérance que l'on retrouve donc chez ces poètes qui ont tous vécu des choses difficiles et ont été témoins de choses difficiles, ont cette lucidité, mais ont le regard tourné toujours vers la lumière. Ainsi s'achève notre émission. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adisias.
Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet, ils sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leur leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les clous.